Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En marche au meilleur prix. Pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est Garage les pièces. CRS.com.
Le joyau du Vieux-Port de Québec, l'Hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel, boutique, primé et conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'Hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato, référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis.
C'est déjà commencé, le patron embauche pour le camp de jour Néo cet été.
Ah oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé.
Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors.
C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis.
Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes, et puis c'est super simple d'appliquer.
Rends-toi au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp de jour Néo et rejoins l'équipe en deux clics.
On a vu. Castor, Mélile, Pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso.
Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Mais...
Ouais, un peu. Parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand.
Non, casse-toi pas la tête. Là. Va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintanque. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière. Inquiète-toi pas.
Pis quand je peux apprendre?
Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux.
Ouais! Quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintanque. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook.
96.9.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière à CJMD 96.9 FM. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien. Toi, Jeff?
Écoute, ça a été un début des émissions les plus longs avant qu'on se rentre en onde. Parce
tu comptes notre retard, tu comptes le pré-drink. Oh, oui.
Oh, ouais, écoute, puis la prémisse, puis les discussions ouais. Avant l'émission. Puis tu sais que on a quand même c'est un sujet un peu... pas privilégié, mais choyé de nous tous. On aime ça parler de fiscalité, de structure d'affaires, etc. Puis c'est tellement niché qu'on doit avoir des professionnels avec nous pour nous outiller, puis nous orienter, puis de le faire ouais. correctement. Puis trop souvent, les gens vont se lancer à la va-vite, puis let's go, on fonce, on fait une convention d'actionnaires, etc. Puis c'est sur le va-vite, c'est pris sur Internet, puis ah ben let's go.
Ou on copie, ou on prend d'un autre, on essaye de prendre un raccourci, on essaye d'utiliser une ressource, mais pas de l'adapter pour nous.
Ça arrive régulièrement, ces situations-là. Puis aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste chez Fortin d'Amour Goyette, hein, c'est ça?
Fortier d'Amour Goyette.
Parfait. Enchanté.
Ben, enchanté aussi.
Merci d'être présent avec nous. Je trouve ça vraiment cool que tu puisses parler avec nous. Puis dans les sujets qu'on va parler, des modèles juridiques, on va parler des partenariats. Tu vas venir nous donner des Q-lines aussi de comment structurer nos business, mais aussi... sais, de répondre aux différents mythes qu'on a, là, tu sais, on s'incorpore-tu, on s'incorpore-tu pas, pourquoi qu'on le ferait, pourquoi qu'on le ferait pas, etc. Est-ce qu'on garde nos, t'sais, nos opérantes avec toutes les... tous nos actifs à l'intérieur de notre opérante où on devrait séparer pour le risque ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça va être vraiment intéressant. T'es avocat fiscaliste. Est-ce qu'on doit faire, oui, notre bac en droit? Puis par la suite, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à devenir avocat fiscaliste?
Ben, en fait, le chemin aujourd'hui, c'est principalement le bac en droit, le barreau puis la maîtrise en fiscalité. Il y en a, mais bon... La maîtrise en fiscalité, là, depuis quelques temps, est offerte beaucoup plus at large qu'avant. Là. Quand j'ai commencé, c'était principalement là, l'Université de Sherbrooke qui l'offrait. Par la suite, le HEC a commencé à en offrir une. Puis là, tout récemment, l'UQAM là, offre un DESS en fiscalité qui devrait tomber en maîtrise. Là, ça, c'est une question de temps, là, juste les délais administratifs. Là. Fait qu'on est rendu à trois universités qui l'offrent là, avec beaucoup plus de cohortes qu'avant. Puis avec la COVID, ben, y a des universités qui l'offrent ou qui pensent l'offrir à la maison. Donc, tout en télétravail, mais télééducation, en fait. Là. Fait que ça, il va y avoir de plus en plus. Là.
Parce qu'on peut quasiment dire que ça a un peu la cote, la fiscalité. Il me semble, si mettons, je me recule hein, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ça fait pas si longtemps, mais on n'en parlait pas au même rythme qu'on en parle là. Comme tu dis, ça se transpose dans les universités et les offres de formation. Mais même pour les investisseurs, de façon générale, est-ce que c'est parce qu'on est plus sophistiqué, comme on aime se dire? Est-ce que c'est parce qu'on se forme plus ou on veut juste aller chercher le meilleur possible? Tu sais, qu'est-ce que toi, tu constates?
Ben, en fait, ta question est bonne, mais même du point de vue interne, tu sais, quand moi, j'ai fait mon bac, je faisais mon barreau, puis j'avais déjà dit que je voulais faire la fiscalité, je voulais faire une maîtrise en fiscalité, puis j'étais même pas sûr que ça existait une maîtrise en fiscalité à cette époque-là, okay. Puis je l'ai su en faisant mon barreau, puis ben, c'est ça que je veux faire. Puis j'étais le seul de toute mon année
ça qui fait voulait pas, faire ça. On te regarde, ça fait pas 25 ans de ça. Là.
Ça fait pas 25 c'est ans, ça. Mais ça fait quand même presque une dizaine d'années là, que j'ai commencé là, mon bac. Puis,
à ce moment-là, pourquoi la fiscalité? Qu'est-ce qui faisait que tu voulais aller vers quelque chose que tu sais pas si ça te donne?
J'ai tout le temps été très mathématique plus que sciences sociales. J'ai tout le temps, au cégep, j'ai fait mes sciences pures. Je voulais être médecin, puis j'ai décidé par la suite que j'aimais pas ça, là. L'univers dans lequel que je gravitais. Fait, j'ai dit, bon, mais à défaut d'être médecin, qu'est-ce que je veux faire? Puis j'ai tellement détesté mes maths, calcul intégral, différentiel, j'ai dit, ben, je veux pas devenir ingénieur parce que ça va être juste ça, des maths de même, sans purpose, parce que malheureusement, oui, les profs étaient bons, mais le schéma, où c'est comme, ben, voici une formule, apprends-la par cœur, puis après, mets-la sur papier, puis je t'expliquerai pas pourquoi. Fais juste le faire. Puis ça vient pas me chercher, je comprends pas pourquoi je fais ça.
Ouais.
Puis j'ai dit, ben, c'est pas vrai, je vais être ingénieur si ça va être juste ça tout le temps. Puis j'ai dit, ben, je vais m'inscrire en droit.
Tu sentais que tu l'appliquerais plus en droit,
ben,
notamment en fiscalité?
J'étais pas sûr que je voulais être avocat dans ce temps-là. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais pas mettre admin comme premier choix. Je trouvais ça un peu plate. Puis, c'est vraiment ça. Là, je m'excuse à eux qui ont fait admin. Mais c'est vraiment ça mon thought process quand j'avais 16-17 ans. Puis...
T'es allé vers ce qui est le moins plate.
J'étais allé vers le droit. Puis après la deuxième année de droit, j'ai pensé lâcher parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Je jouais au rugby pour l'université. La plupart des gens qui jouaient au rugby avec moi étaient en génie. Puis c'est là que j'ai appris que MATLAB existait, qui est un logiciel qui fait tous les calculs pour toi.
Bon,
j'ai
par
fait
là.
Comme, oh my God, pourquoi j'ai pas fait ça?
Je veux connaître ça.
Quelle déception! Ben, j'ai pensé lâcher le droit pour aller faire génie. Puis je me suis dit, ben écoute, j'ai fait 2 ans, je vais finir au moins ma troisième année. Puis là, j'ai fini ça. J'ai connu la fiscalité. Puis j'ai dit, oh, ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est concret. On parle de chiffres, on parle d'argent. Je trouvais ça vraiment le fun.
On parle de vrais impacts, là, puis de vrais bénéfices
dans ces portefeuilles des gens directs.
Exact. Puis tu sais, si on fait un parallèle... Pendant que je faisais mes études, je travaillais dans une usine. Là, j'étais sur le plancher dans une usine, puis je faisais tous les shifts d'overtime pas possible parce que je travaillais juste l'été ou presque. Parce que, bon, à ce temps-là, on n'était pas en pétinerie de main-d'œuvre. Fait qu'à Sherbrooke, si tu n'avais pas une job à l'année, tu n'étais pas capable de garantir que tu serais là toute l'année, ben ils ne te prenaient pas vraiment. Fait que les locals avaient les résidents de Sherbrooke avaient tout le temps les premiers choix pour les jobs parce que justement, ils étaient là 12 mois par année. Puis nous, quand on était là juste 6 mois ou 8 mois par année, ben on passait pas en deuxième. Fait que j'avais une job où est-ce que je suis né, où est-ce que j'ai grandi dans une shop. Je prenais tous les chiffres d'overtime. Puis à un moment donné, je me rappelle, je suis dans le bureau du contremaître, puis on ouvrait toutes nos payes tout le temps en même temps. Là, puis là, ça a fait un tollé, parce que j'ai été la personne la plus payée pour ces deux semaines-là de toute l'usine au complet. Ouais. Puis là, ben là, les gens, ça faisait 20-25 ans qu'ils étaient là, puis ils étaient tellement pas contents que, tu sais, à la base, je gagnais, je pense, 16$ de l'heure à ce moment-là, qui était très respectable là, à l'époque, mais eux, ils gagnaient entre 26 puis 36. Là, ils comprenaient pas pourquoi le jeune qui gagne 16$ de l'heure faisait une plus grosse paye qu'eux autres. Puis là, il capotait. Puis là, je leur ai juste dit, mais je suis comme les gars, tu sais, vous êtes syndiqués au coton. Fait que quand moi, ils m'appellent faire l'overtime, c'est parce qu'ils ont appelé tout le monde. Puis tout le monde a dit non. Ouais. Fait que moi, je suis rentré, je l'ai fait.
Les résultats payent avec l'effort, là. Tu as travaillé plus d'heures, tu as fait plus de cash.
C'est ça, exact. Mais eux, ils me disaient, ben non, parce que si je fais l'overtime, je vais changer de braquette, je vais payer trop d'impôts, puis ils vont m'en manger plus. Fait que je vais faire moins d'argent en travaillant plus. Puis là, je suis comme, mais non, c'est pas le même, ça marche.
Mais c'est un gros mythe, là, l'overtime.
Exact.
Le fait de se faire manger.
Il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de. Bon, la fiscalité, c'est, puis la façon dont les impôts fonctionnent, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment. Puis j'entends beaucoup des gens qui gagnent un salaire qui est quand même respectable, mais qui, à la fin de l'année, payent quoi? L'équivalent de 10% de leur revenu en impôts, puis ils disent tout le temps, ah, j'en paye beaucoup trop. Mais tu sais, va demander l'autre côté à l'ingénieur, au médecin ou au dentiste. Combien de pourcentage final de son impôt, de revenu, il paye en impôt, c'est pas mal plus que ton 10-15%. Tu sais, lui, ça va être du 25, 30, 35, des fois 40. Puis bon, les grosses fortunes, des fois, ils vont payer du 50-53%. Fait que, tu sais, puis souvent, les gens qui chialent, qui payent trop d'impôts, c'est eux qui en payent pas tant que ça. Ouais. Tu sais, parce qu'ils comprennent pas vraiment. Tu sais, oui,
c'est toujours trop aussi.
C'est sûr que ça va dépendre de ce que le gouvernement fait avec ton argent. Si tu trouves qu'il dépense mal, c'est sûr que tu ne voudras pas lui donner une pièce de plus, ça va être trop. Si tu trouves qu'il dépense super bien, ça va te faire plaisir d'en donner plus.
Ouais.
Fait que c'est juste une question de perception.
Puis là, je veux juste comme faire un point là-dessus.
Comme ça.
Ouais, c'est ça. Il y en a-tu beaucoup?
Il y a peut-être rencontré.
Parce que moi, j'en ai comme pas vraiment rencontré des gens qui pensent que le bon gouvernement prenne des bonnes décisions avec notre argent.
Non, je pense pas que c'est théorique. Il y en a beaucoup, mais c'est théorique. Plus, on va retourner à ma maîtrise en fiscalité. On a un cours qui s'appelait politique fiscale avec Luc Godbout qui a la chaire de recherche en fiscalité à Sherbrooke. Puis on regardait les modèles fiscaux des autres pays, puis principalement les modèles des sociétés des pays scandinaves. Puis là-bas, tu sais, le taux d'imposition effectif est beaucoup plus élevé qu'ici. Tu sais, on parle de quasiment jusqu'à 70% selon le pays. Mais les gens là-bas sont heureux de payer ça parce que...
Ça redescend.
C'est exactement remis dans
la communauté.
Dans la communauté, dans ce qu'eux ont besoin, c'est dépenser aux bonnes places. Puis il n'y a pas d'affaire de genre, je me suis payé un verre de jus à 16$, puis j'espère que ça passera pas. Tu sais, là-bas, il nous contait une histoire, puis là, évidemment, c'est des oui-dire. J'étais pas là pour le vérifier, mais il nous contait une histoire d'une députée ou d'une élue, là, d'un des pays des Scandinaves ou des pays nordiques en Europe, qui avait acheté un paquet de gomme avec sa carte de fonction. Puis quand elle s'en est rendu compte, elle a juste démissionné en disant, oh shit, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas faire ça, fait que j'ai fait quelque chose que j'avais pas le droit de faire, fait que je suis obligé de démissionner. Ici, je vais pas lancer de roche à personne, mais...
Il y a 2-3 paquets de gomme qui s'achètent.
Écoute, il y a 2-3 histoires aussi, là, qui ont passé public aussi, là, puis...
Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne quand même de dire que, tu sais, ça dépend effectivement comment ça sort, mais toi, dans le fond, quand t'as vécu cette expérience-là en usine, tout ça, ça t'a déjà un peu éveillé à ça, après
ben,
ça?
Ben oui, parce que j'avais déjà mes premiers cours de fiscalité à l'époque, j'essayais de leur expliquer que non, tu sais, c'est juste sur les nouveaux dollars, puis non, je paye trop d'impôts, je sais pas moi, mais si tu payes trop d'impôts, ça se peut être un remboursement à la fin, non, fait que...
Là, t'es juste parti avec ton chien. C'est bon, l'espace,
je pars avec mon chien. J'étais juste content, puis, tu sais, je travaillais 7 jours ou 6 jours en ligne, 12 heures par jour, puis... Souvent, c'est des chiffres de jour, chiffres de nuit. Fait que des fois, t'étais obligé de prendre une journée de congé juste pour dormir et te changer de cédule.
Oui, parce qu'il était obligé de te donner un 8 heures d'arrêt entre tes chiffres. Là, c'est une obligation. Là. Puis, définitivement, que j'ai déjà vécu, moi, cette situation-là. Puis, tu sais, moi, je suis un gars qui travaillait vraiment beaucoup. Là. Je travaillais de nuit pour pouvoir payer mon cégep. Puis, j'allais au cégep la journée. Je m'entraînais le soir. Puis, tu sais, je gagnais quand même un bon salaire. J'ai eu une école de badminton. Puis, t'sais, j'ai gagné un excellent salaire là-dedans, mais je travaillais toujours 100 heures semaine. Mais tu sais, j'étais payé selon l'effort.
Ouais, exact.
Puis arrive ta maîtrise en fiscalité, arrive sur le domaine de l'emploi.
J'ai même pas répondu à la question. Hein. Je parlais parce que ta question, c'est vraiment est-ce que c'est parce qu'on est plus sophistiqué? Puis où est-ce que je m'en allais? C'est que même dans le domaine, j'étais le seul Puis, parce que oui, je vais y aller tous les bords. Vous allez voir, j'ai un petit trouble d'attention, mais j'essaie de tout le temps ramener. Là.
On est tous dans le même bateau. Que... on va l'avoir.
Même dans le domaine où j'étais, où est-ce que quand j'ai fini mon bac, mon barreau, j'étais le seul qui voulait faire ça. Puis quand je suis arrivé à mon premier cours de maîtrise, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre gars avec qui j'ai fait ma cohorte, là, qui voulait faire sa maîtrise en même temps que moi. Puis un autre qui était une année plus vieille, c'est tout. Le reste, c'est tous des gens d'ailleurs, ou principalement des comptables ou d'autres gens. Et dans toutes les gens avec qui j'ai étudié, là, toute la cohorte de mon année, il n'y en avait pas tant que ça, où on était trois là, ou deux, en fait, qui faisaient la maîtrise en fiscalité. Puis là, maintenant, il y a plein de gens que je vois avec qui j'ai étudié qui, aujourd'hui, sont en train de la faire ou viennent de la finir, puis ont des postes là-dedans, puis ils travaillent là-dedans. Fait que, est-ce que c'est parce qu'ils en cherchent puis ils donnent des salaires intéressants? Peut-être. Est-ce que c'est parce que les gens se sont rendus compte que, ah, finalement, c'est le fun de la fiscalité? Ma conjointe, c'est le meilleur exemple. On était ensemble à l'université, puis elle me disait, aïe, la fiscalité, je comprends pas qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Puis là, maintenant, elle est en train de finir sa maîtrise en fiscalité, puis elle aime vraiment ça. Fait que je pense que les gens, ils voient les applications aussi de la fiscalité dans la vie de tous les jours, puis c'est ça qui les intéresse. Puis c'est la même chose aussi, les investisseurs, plus il y a de gens qui connaissent la fiscalité, plus on peut vous en parler, plus on peut vous parler, oh, mais si on le fait de même, on sauve de l'argent, on fait ci, on fait ça, c'est plus avantageux pour toi. On l'a dit tantôt, il n'y a pas personne qui aime ça payer de l'impôt pour rien.
Non, c'est ça.
Si je suis capable de faire la même transaction, mais avec un coût fiscal beaucoup moins élevé, bien, tout le monde va vouloir ça. Là.
C'est ça, puis ça se démocratise, puis on voit un peu les techniques, puis on voit que c'est évidemment tout des trucs légaux, puis qu'il y a des façons d'économiser de l'impôt sans que ça soit justement par des trucs croches.
Tu sais, ça devient aussi une nécessité. Là. On se cachera
pas.
C'est des gros chiffres, mais ouais. Il y a aussi, puis moi j'ai toujours été un gars ultra fidèle, genre avec les partenaires d'affaires avec qui j'ai, sauf mes comptables. J'ai toujours eu de la difficulté avec les comptables parce que c'est toujours une question d'interprétation d'un versus l'autre. Puis là, j'étais comme, ben crime, lui, il l'interprète comme ça, fait que je vais garder qu'est-ce qui est bon, fait qu'après ça, mais que je vais changer de comptable, mais je vais dire, prends la recette de lui, puis ajoute qu'est-ce que toi tu fais. Puis tu sais, au final, là, c'est qu'ils ont chacun leur petite recette, chacun leur petite interprétation. Puis ça vient qu'à un moment donné, la ligne directrice n'est pas suivie. Puis tu arrives toujours dans la fin de tes états financiers. Tu fais comme, tabarouette, tu sais, ça aurait dû être ajusté avant, ça aurait dû. Puis la stratégie n'est pas là. Fait que, tu sais, ça devient une nécessité aussi en affaires d'avoir un fiscalisme, puis d'avoir une stratégie financière aussi. Puis c'est donc important. Puis pour.
Parler aussi, oui. Parce que, tu sais, juste que je vais faire du pouce que ce que tu dis, je m'excuse de te couper, là, mais. Nombre de fois, j'ai des comptables qui disaient « Ah, c'est pas bon ce qu'il fait, on fait pas de même. » Puis après, tu dis « Ok, mais explique-moi à moi. » Tu l'as dit au client. Le client, il a compris à moitié ce que tu lui as dit. Là, dis-moi à moi ce que tu disais. « Ah, mais j'ai dit ça à cause de telle affaire. Ouais, mais t'as pas pensé à ci, ça, ça. »« Ah, oh, ouais. »
Un petit silence. «
Ah, ok, ouais. Ok, je l'avais pas vu de même. » Non, tu l'avais pas vu de même, mais là, au lieu de m'en parler à moi puis que je te dis « C'est quoi mon raisonnement derrière ça? » T'as juste dit au client que ça servait à rien, tu sais. J'ai un comptable qui a dit à un de mes clients qui est un professionnel. Les professionnels, quand ils sont incorporés, souvent, ils ont des restrictions à ce qu'ils peuvent faire avec leur compagnie. Puis il a dit, moi, tous les professionnels comme toi font des investissements avec leur Inc. Fait qu'il n'y a pas de trouble, tu peux en faire. Je dis, là,
time out. La règle de généralité, là, ça part mal. Là.
L'investissement qu'il est en train de faire, c'est des flips. Penses-tu vraiment que son ordre professionnel va accepter qu'il fasse des flips avec sa Inc. de professionnel?
Il y a du légal, mais c'est là aussi où le comptable n'a pas nécessairement l'œil sur le légal de la chose, tandis qu'un avocat fiscaliste va avoir... Tu vas voir les deux tableaux, toi, dans le fond. Là. Tu vas être capable de le mettre en garde. Puis ça revient à dire les généralités ou dire « Ah, ben les autres ont fait ça, fais-le comme ça. » Déjà, les règles changent dans le temps. Puis en plus, les règles changent selon ta situation à toi, ta situation propre.
Ça change assez vite aussi, des fois. Là. On sent, en 2016, il y a eu des changements. En 2018, il y a eu des changements.
Il va y avoir des nouveaux changements aussi là, pour aller rechercher de l'argent. On n'aura pas le choix, puis on va passer dans le tordeur, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, d'avoir des gens qui vont déjà prévoir les shots, ben, ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir déjà te donner la stratégie pour, si on veut, amortir les impacts, dans un sens qu'il y a plusieurs personnes actuellement qui roulent leur compagnie justement pour cristalliser les valeurs, etc., pour faire en sorte que si jamais arrive un gain en capital différent ou quoi que ce soit, bien, il va avoir une très grande partie qui va avoir été cristallisée au taux d'aujourd'hui, qui ne va pas faire en sorte qu'ils vont se faire imposer sur des valeurs futures ou quoi que ce soit. Puis la stratégie est vraiment, vraiment importante. Puis il reste peut-être juste une minute, là, juste pour finir ton parcours.
J'allais renchérir ce que tu allais dire en disant ce qui est plate en fiscalité, c'est que les changements ne sont pas nécessairement tous annoncés d'avance. Puis des fois, les changements sont effectifs lors de l'annonce. Fait qu'on est un peu pas qu'on est pris de court, là, mais on est un peu... Ouais. Il est minuit moins une, il faut qu'on réagisse. Puis tu sais, la cristallisation, c'est une des... dont tu parles pour la diffusion grand capital. C'est une des stratégies qui peut être intéressante, mais comme je dis à mes clients, j'ai pas de boule de cristal parce que sinon, je serais pas avocat, je serais juste une plage en train de choisir le numéro de la loto à chaque semaine. Puis ça se peut qu'on cristallise aujourd'hui en pensant bien faire, puis que finalement, il y a quelque chose qui se passe, puis c'était une mauvaise idée de cristalliser. Puis au contraire, ça se peut qu'on dise « Ah, j'aurais donc dû cristalliser, puis là, je le savais pas, puis là, ben là, il y a ça qui s'est produit. » Puis on, malheureusement, on est...
Ça, tu vois pas dans le futur.
Exact.
Puis dans ton parcours, tu as fait un stage au public avec une commission scolaire.
Oui.
Par la suite, tu nous avais dit en pré-entrevue que ça n'a pas été une des meilleures expériences.
Pire 6 mois de ma vie. Je pense que c'est encore pire que les maths.
Puis par la suite, tu es arrivé justement là, dans un bureau privé, avocat fiscaliste. Puis arrive aussi ton expérience avec Fortin d'Amour-Goyette.
Oui, Fortier,
excuse-moi. Ouais, j'ai juste Fortier d'Amour-Goyette. Puis c'est un bureau qui est situé à Longueuil. Est-ce que vous avez des bureaux sur Québec?
Non, on a des bureaux juste à Longueuil. Mais on travaille, là, on a beaucoup de gens là, depuis la COVID. On a beaucoup de gens qui sont en télétravail. On en a une qui a fait quelques semaines, là, elle travaillait de Rome. On en a une autre qui travaillait de quelque part en France. Je ne me souviens plus exactement, je m'excuse. Donc, on est quand même ouvert à ça, là, le télétravail. Moi, personnellement, je suis à Laval, fait que je me tape le
trafic.
Le trafic aller-retour à chaque fois que je vais au bureau. On a d'autres qui sont dans Laurentide. Mais on n'a pas de...
Puis au niveau de votre entreprise, vous avez aussi, là, au niveau de votre étude, 3 grands volets. Le droit notarial, le litige... puis tu parlais que c'était le droit de la famille, sauf le pénal puis criminel.
En fait, dans les litiges, on fait pas mal tout, sauf incluant le droit de la famille, mais on fait pas de pénal, pas de criminel. Fait qu'on va faire justement le droit de la famille, les litiges conventions actionnaires, litiges actionnaires, des recours en oppression. On fait aussi là, des recours, tout ce qui a trait à l'immobilier. On a fait des prescriptions acquisitives ou des débats là-dessus récemment.
L'immobilier, c'est un gros créneau au bureau chez vous.
C'est un énorme créneau chez nous. Moi, c'est je vous dirais 90% de ma clientèle, ça vient de l'immobilier, si c'est pas 95%. Puis des fois, oui, ça vient de l'immobilier, mais on s'entend qu'en immobilier, il y a beaucoup de gens qui ont aussi une première carrière ou une première business. Beaucoup, c'est la construction où on a beaucoup de courtiers immobiliers aussi comme clients. Parce que Fortier d'Amour-Goyette. Martin Fortier enseignait là, donner des cours aux courtiers. Fait qu'on a beaucoup de courtiers qui viennent nous voir. Mon ancien bureau, j'avais une expertise en immobilier, mais aussi en construction. Fait que toutes ce qui est licence RBQ, je faisais des litiges avec la CCQ, des choses comme ça. Chose que je fais un peu moins maintenant, puis je me concentre vraiment en planification, mais j'en ai encore qui sont ongoing, là, des litiges avec la CCQ. Puis j'ai une équipe là, dans le volet là, litiges qui font principalement justement le droit de la construction et droit immobilier, puis qu'ils vont probablement reprendre cet aspect-là. Là.
Puis toi, as-tu aussi le side hustle? Es-tu aussi un investisseur?
Oui, moi,
sur le côté, as-tu l'intérêt pour l'immobilier, toi, personnellement?
Moi, je suis dans l'optimisation.
OK.
L'optimisation, donc on achète des plex qui manquent d'amour, puis on met du jus de bras là-dedans, on met de l'amour, on va chercher des nouveaux locataires, puis on va augmenter les loyers. On va mettre les loyers au prix du marché en faisant... les rénovations nécessaires, puis en augmentant l'attrait là, du bâtiment, puis en allant chercher des nouveaux locataires qui sont pas nécessairement les... Parce que nous, on a investi dans un secteur qui est un peu moins cossu.
C'est-à-dire?
On a investi dans Pont-Viau à Laval.
Okay.
Fait que Pont-Viau à Laval, c'est un peu... avant, il y avait Limoilou à Québec, là, je pense.
Oui, Limoilou.
Fait que là, le Pont-Viau, c'est un peu l'ancien Limoilou. Où est-ce qu'il y a quand même... il y a quand même un peu là, de
c'est proche de du top à Laval. Hey, mais tu sais, juste avant qu'on parle d'optimisation, qu'on parle de partenariat ou de projets comme ça, on est obligé d'aller en pause. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière. On est diffusé tous les samedis à 11h. Vous désirez avoir plus d'informations, consultez notre site web jean-françois-morin.ca.
CJMD 96.9.
On est de retour à La Bulle immobilière, toujours avec Kevin Filion. Et notre invité qui est Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste pour Fortier d'Amour-Goyette. On parle aujourd'hui de fiscalité, on parle de droit, on parle de plusieurs sujets qui nous touchent à titre d'entrepreneur aussi. Puis l'incorporation est quand même un gros morceau en affaires. Puis est-ce qu'on doit s'incorporer ou on ne doit pas s'incorporer? Puis tu sais, Jean-Sébastien, on a souvent ces discussions-là, même avec... notre équipe, les courtiers de notre équipe, à quel moment que les courtiers vont s'incorporer, puis à quel moment que les courtiers ne s'incorporent pas, puis pour quelle raison qu'on devrait le faire ou pas le faire. Puis tu sais, tout est une question de qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent. Hein?
Exact. Ben, oui, exact. Puis tout est une question aussi de la réalité de chaque personne, parce que là, on parle de courtier, on parle souvent d'investisseurs immobiliers, mais faut, bon, les courtiers, on s'entend, c'est du revenu actif, là, c'est leur travail, c'est du revenu là, une entreprise, opérant. Une revenu ouais. opérant. Alors que l'immobilier, donc, 9 fois sur 10, ça va être du revenu qui est passif. Puis, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imposition des sociétés ne marche pas exactement comme l'imposition des particuliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux marginaux. Ouais. C'est pas plus qu'on fait d'argent, plus qu'on va être imposé là, à un taux élevé quand on est en société. C'est dès le premier dollar, on a le même taux jusqu'à la fin, à moins que qu'on ait, mettons, accès à la DPE avec le plafond des affaires, puis là, ben là, auquel les premiers 500 000 $ ou un petit peu moins si on a une réduction du plafond, vont être imposés à un taux moindre. Puis après, si on dépasse, ben ça va être imposé à un taux supplémentaire, mais il n'y a pas de taux. Progressif, là, comme ouais. les particuliers. Là. Donc, pour répondre à cette question-là, en fait, la réponse, c'est ça dépend. Puis,
ah oui.
puis, tu sais,
ça dépend aussi comment qu'on regarde la question, c'est quoi les enjeux, ça dépend du risque aussi. Puis, tu sais, ça peut dépendre aussi des types d'activités qu'on peut faire. Là.
Oui, bien, exactement. Parce que, tu sais, si on regarde, là, j'ai en tête le courtier dont tu me parles, mais si on regarde aussi les flips. Les gens qui font des flips immobiliers ou qui font de la construction, pour moi, c'est un no-brainer que de s'incorporer, même si certains comptables m'ont dit « Ah, ça vaut pas la peine, ça coûte trop cher, va pas t'incorporer parce que tu vas pas faire assez d'argent les premières années, fait que vas-y à ton nom personnel. » Ben, deux minutes, là. Un flip ou de la construction, ben, on s'entend, là, les recours pour malfaçon, vice caché et HAL, ben, ils sont quand même importants. Ben oui,
le légal est là, pareil.
Le légal est là, fait que oui, tu sauveras peut-être pas d'argent en t'incorporant pour faire des flips pour x, y raison, parce que oui, peut-être que tu vas être à perte les premières années, si jamais ton flip, c'est un flop. Mais en plus, si ton flip, c'est un flop, puis en plus, par-dessus, tu te fais poursuivre pour malfaçon, puis tu es responsable de parce que, tu sais, on s'entend, quand tu fais un flip, ben, il y a des fortes chances que tu sois un vendeur professionnel aux yeux du tribunal. Puis là, ben, ouais. tu vas être responsable de toutes les vices cachées, connues et inconnues lors de la vente.
Ouais.
Fait que même si tu ne savais pas, même si tu n'as pas touché à la fondation, ben, il y avait un vice de fondation, tu as fait un flip, tu vas être responsable du vice de fondation. Parce que si tu es un vendeur professionnel, tu ne peux même pas vendre sans garantie légale au risque de payer l'acheteur. Puis après, si ça te coûte 2, 3, 400 000 $ de ta poche parce que il y avait vraiment un vice au moment de la vente, bien, ça se peut que ton flop soit encore pire. Là.
Puis ça, c'est un point super important que tu viens de mentionner. Quand tu fais un flip, tu es considéré souvent comme un vendeur professionnel. Puis au-delà de ça, c'est qu'il y en a quand même, tu sais, par exemple, des entrepreneurs qui vont faire un flip dans leur construction, etc. Puis ils vont avoir des fois acheté une reprise de finance ou ils vont vouloir revendre la propriété sans garantie légale de qualité. Puis dans un cas comme ça, est-ce que ça se peut que les juges réappliquent la garantie légale parce qu'ils vont dire, écoutez, vous n'aviez pas l'habilité, mais vous n'aviez pas à retirer les garanties parce que vous êtes un professionnel?
Oui, ça se peut très bien, même si j'ai déjà vu une situation où, de mémoire, le vendeur était un charpentier menuisier et avait vendu une maison dont les fondations là, avaient une problématique. Puis bon, le charpentier menuisier n'a jamais travaillé sur les fondations, n'a jamais rien fait.
Ouais.
Et là, évidemment, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai lu le jugement, donc c'est pas très frais à ma mémoire. Puis je pense qu'il a habité dans la maison. Fait que c'était pas vraiment un vrai flip, ouais. mais c'est quand même une maison qui a été vendue dans laquelle il a habité. Puis le juge est venu dire, bien, vu que tu es charpentier menuisier, vu que c'est ta principale source de revenus que de faire de la construction, de travailler là-dedans, bien, tu es un vendeur professionnel, tu es responsable du vice à la fondation, alors que le gars, il est vraiment charpentier menuisier, il fait pas de coffrage, il fait rien, puis il a jamais touché à la fondation, puis il savait même pas qu'il y avait un vice à la fondation.
Ce n'est pas un entrepreneur non plus. C'est un travailleur du domaine.
Je me souviens plus si lui était entrepreneur ou travailleur, mais c'était selon ma compréhension du jugement, parce qu'évidemment, je suis pas assis en salle de cours avec toute la preuve puis les débats, mais selon ma compréhension du jugement, il faisait pas ça pour faire de l'argent nécessairement cette vente-là, puis c'était pas un vrai flip en bonne et due forme. Là. Puis le juge est quand même venu dire, ben, vu que tes principales activités comme salarié ou comme entrepreneur, je me souviens plus s'il était salarié ou entrepreneur, sont dans la construction, ben, ça fait partie des critères pour savoir, oui, tu es un vendeur professionnel, c'est pas nécessairement le seul critère. Donc, ils vont dire, oui, tu es un vendeur professionnel, puis ben là, tu es responsable de tout, puis tu peux même pas vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Puis quand je dis tu peux pas vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, c'est que tu peux bien le mettre dans le contrat que tu vends sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. C'est juste pas légal.
Dans un cas, par exemple, que moi, je suis courtier immobilier, j'ai un entrepreneur qui veut vendre sa propriété sans garantie légale de qualité. Moi, à titre de professionnel, c'est à moi de dire, écoutez, je le comprends. Par contre, au sens de la loi, vous êtes reconnu comme un vendeur professionnel. Dans un cas comme ça, la garantie ne va s'appliquer d'une façon ou d'une autre, qu'on l'inscrive ou qu'on l'inscrive pas. Si jamais il arrive un litige, ben dans un cas comme ça, attendez-vous que...
Il y a des risques. Puis, tu sais, en même temps, c'est... Dans cette situation-là, là, c'est peut-être plus l'avocat qui parle, mais c'est si vraiment c'est sa résidence principale, si vraiment il habite là-dedans, si vraiment il n'a pas fait de travaux, si vraiment X, Y, Z, ben il peut l'essayer, la vente sans garantie légale au risque épilé de l'acheteur, mais s'il y a un recours par la suite, ça se peut très bien que le juge vienne dire « Ben non, laisse faire ta vente sans garantie légale au risque épilé de l'acheteur, t'es un entrepreneur en construction, tu aurais dû le savoir, puis même si c'est résidence principale, mais là, ben, il va falloir que le juge, par exemple, tranche, tu sais. Fait que si le juge n'a pas tranché, si l'acheteur ne va pas jusque-là, si pour X, Y raison, ça serait hors cours, peut-être que c'est un avantage de le faire comme ça, mais on ne peut pas penser de « Ah, oh, je vais vendre sans garantie légale au risque péril de l'acheteur », c'est sûr qu'il se passera rien.
C'est pas ce qui est sur le papier, on est blindé, puis c'est tout. C'est noir sur blanc. C'est toujours interprétable, c'est toujours démontrable.
Mais tu sais, un point important aussi, on achète des immeubles à revenus, on strip les immeubles, on les rénove, etc., on les remet en vente. Dans notre partenariat, on a un entrepreneur général. Ben, dans un cas comme ça, les garanties vont s'appliquer. Ou, tu sais, en grande partie, quand que le juge va ouvrir la convention, va regarder l'actionnariat, puis ils vont dire, écoutez, vous êtes des vendeurs professionnels de un. De deux, c'est que vous avez quelqu'un à l'intérieur de vos partenaires qui sont, eux, entrepreneurs. Ben, ça fait en sorte que, malheureusement, la garantie, on va l'appliquer. Fait qu'on ne peut pas se retrouver à revendre des propriétés sans garantie légale de qualité, là.
Bien, en fait, c'est comme je dis...
Ça devient tricky, là.
C'est très tricky parce que le risque est toujours là si c'est vraiment toi qui as fait les travaux. Puis là, je parle pas nécessairement des petits travaux d'entretien parce que c'est ton c'est ton concierge qui les fait, là. Mais tu sais, vraiment, un entrepreneur qui construit puis qui revend par la suite quelque chose qu'il a construit, il peut essayer de le vendre sans garantie légale au risque de l'acheteur. Mais tu sais, si l'avocat de l'autre côté est moindrement là, allumé, il va avoir décelé le fait que qui a construit ça, c'est toi, OK, c'est beau, puis il va y aller sur, ben OK, c'est beau, moi, je veux faire invalider ça, puis je veux faire forcer la garantie parce que c'est un vendeur professionnel. Là, ça va être laissé à l'appréciation du tribunal.
Puis au niveau des incorporations, là, tu sais, ça nous amène un certain avantage fiscal, mais ça nous amène aussi une protection juridique. Tu sais, dans le sens que l'incorporation va permettre aussi de mettre un peu en silo les différentes opérations, ce qui veut dire que moi, je suis courtier immobilier, génère des revenus en tant que courtier immobilier. Puis, si je fais de l'investissement immobilier, bien, je ne devrais pas nécessairement mettre mes investissements immobiliers dans ma compagnie de courtage immobilier. Tantôt, tu en avais parlé aussi avec les ordres professionnels, etc. C'est important, justement, de mettre nos business dans un silo puis de protéger nos business dans ce sens-là.
Bien, quand on peut le faire puis quand il y a des risques, oui, c'est important. Puis, je vais aller plus loin aussi. Tu sais, c'est sûr qu'une business de courtier, ça ne se vend pas vraiment parce que, tu sais, une business de courtier, mais mettons que c'est l'agence. Bien, une agence, ça se transige, ça se vend à une agence. Puis si tu as une agence, bien, tu as peut-être intérêt à ne pas avoir tes immeubles dans l'agence parce qu'à un moment donné, quand tu vas approcher ta retraite, tu vas peut-être vouloir vendre l'agence ou même si tu n'approches pas de la retraite, peut-être que tu as un jeune courtier qui est vraiment prometteur puis que tu veux le garder avec toi puis tu veux qu'il
prenne l'actionnariat.
Ben, exact. Hein, là, tu vas lui donner une part dans ton agence, mais si tu as des immeubles dans ton agence, là, tu ne vas pas lui donner une part dans tes immeubles. Là, c'est un peu moins le fun. Puis, peut-être que ton agence, ça se qualifie à la déduction de gain en capital. Tu sais, le fameux 892 000, pas d'impôt.
Oui.
Ben, ça se peut que l'agence se qualifie. Mais s'il y a des immeubles là-dedans, ça se qualifie pas.
Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du segment, tu as posé la question, on s'incorpore-tu ou non? Puis que là, plusieurs professionnels vont dire non, tu fais pas assez d'argent. Tout. Puis là, depuis tantôt, on répond sur tout le reste. Dans le sens qu'il y a le légal, il y a la liquidation, il y a le partenariat. Fait que, tu sais, on comprend déjà tout de suite que c'est pas juste ça va te coûter, je sais pas, 2000 d'état financier chaque année. Laisse faire, tu fais pas assez d'argent. Ouais, t'as peu,
exact, c'est vrai. Pourquoi tu regardes ça avec des ailleurs? Parce que, tu sais, si tu regardes ça avec des ailleurs, nécessairement, les chances sont beaucoup plus grandes que tu fasses une erreur que si tu regardes ça avec tous les éléments là, qui peuvent s'appliquer. Là. Fait que si tu dis, ben regarde, dans cette situation-là, il faut que je regarde le légal, il faut que je regarde le fiscal, il faut que je regarde ci, ça, ça. Puis, tu sais, il y a des ordres professionnels encore aujourd'hui, je ne me souviens plus exactement lesquels, parce que, bon, année après année, il y en a de plus en plus qui peuvent s'incorporer, mais il y a encore des ordres professionnels, puis de mémoire, les orthophonistes en sont un, qui ne peuvent pas être incorporés pour rendre leur service. Fait que tu peux bien dire que sur papier, oui, tu as tous les avantages légaux et fiscaux d'être incorporé, mais si ton ordre professionnel t'empêche d'être incorporé, tu peux juste pas être incorporé pour faire ça. T'sais, tu peux t'incorporer pour faire d'autres choses, mais pas pour faire
ta business.
Mais ta business ou les services qui relèvent de ton ordre professionnel qui, eux, ne peuvent pas être dans une incorporation. T'sais.
Puis, tu sais, dans le courtage immobilier, on a quand même plusieurs mythes aussi par rapport à ça, parce que on entend dire, si tu fais pas 100 000 par année, ça sert à rien que tu puisses t'incorporer. Moi, j'avais une courtier qui faisait 175 000 par année dans notre équipe, puis pour elle, c'était pas un avantage de s'incorporer parce qu'elle flambait son cash.
Exact. Fait
que comme elle gardait pas d'argent dans sa compagnie, ben ça servait à rien d'être incorporé. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même des points qui sont ultra importants. Puis, dans les modèles juridiques, tu peux nous parler un peu, c'est quoi les types de compagnies, les fiducies? On entend souvent, est-ce qu'on doit avoir une gestion, Inc.? Est-ce qu'on fait un enregistrement? Est-ce qu'on fait une fiducie? J'aimerais ça avoir un peu plus d'explications, mais une explication pour les nuls, là.
Ben, en fait, ça dépend vraiment. T'sais, l'incorporation, tu as mis exactement le doigt dessus. Tu peux bien faire 300 000 ou 500 000 par année. Si tu dépenses 500 000 par année pour mener ton train de vie, ça ne sert à rien d'être incorporé parce que tu vas juste avoir des frais supplémentaires et ça va te coûter plus cher que juste ne pas être incorporé. Mais si jamais, ça se peut que tu fasses juste 150 000 par année, mais que tu vives comme un moine avec 30 000,
ouais.
Ben, le 120 000 de plus, là, si dans l'incorporation, il risque de te coûter moins cher d'impôts que si tu l'as à ton nom personnel. Ça peut valoir la peine. Fait que, c'est vraiment du cas par cas. Il y a déjà quelqu'un dont je vais taire le nom qui a déjà dit ben ça sert à rien de s'incorporer quand on est avocat si on fait moins que 900 000 par année parce que ça va coûter trop cher d'impôts. Puis là, j'étais comme, wow, on n'a pas le même train de vie, toi puis moi, parce que 900 000 par année,
c'est du stock.
Ça fait longtemps que je vais être incorporé rendu là.
Ça fait longtemps qu'il va en rester dans le bottom line, mais clair. Ça revient à ce que je disais en début d'émission. C'est toujours essayer de prendre des raccourcis ou se coller à un modèle ou se dire la plupart des gens font ça ou je connais un gars dans ma situation qui ressemble.
Tu peux pas prendre un raccourci quand t'es un professionnel parce que c'est qui va en payer le prix, tu sais, c'est le client. T'sais, c'est bien le fun que ta facture va être 1000, 2000, 3000, 5000 de moins que l'autre qui l'a fait comme faut. Mais au final, c'est toujours le client qui va finir par payer. Puis récemment, ça s'est arrivé où le client, j'ai un client qui était client chez nous, qui est allé ailleurs parce qu'il était moins cher. Puis là, il est dans le trouble parce que l'autre qui l'a fait l'a mal fait. Il faut qu'on répare, mais réparer quelque chose, ça coûte tout le temps deux à trois fois le prix que de le faire comme il faut. T'sais.
Puis, fait que, t'sais, dans le fond, si on dit on s'incorpore-tu ou non, il faut regarder quatre affaires. Il faut regarder, oui, en reste-tu à la fin de l'année.
Exact.
Après ça, y a-tu une protection légale selon le type d'activité? Est-ce qu'on a un partenariat qui peut être facilitant en prenant une incorporation? Puis
exact.
Quand on va le liquider, y a-tu des incitatifs fiscaux qu'on pourrait scraper en bon français si on le.
Au niveau de la vente aussi, vendre avoir la DGC, à moins que vous soyez dans les domaines des pêches et les domaines agricoles, la DGC, c'est juste sur des actions. Donc, on ne peut pas avoir la DGC sur une compagnie, sur une entreprise enregistrée. On peut juste l'avoir sur une compagnie, une Inc. Évidemment, sauf si on est dans le domaine de pêche et agricole, qu'on peut l'avoir sur des actifs aussi. Là. Des fois, ça vaut la peine de le faire comme ça. Puis, Jeff, il a dit tantôt, puis il a posé la question, mettons, les courtiers, mais il a mis exactement le droit dessus. Peu importe le courtier, comment il va faire comme commission, comment il va faire comme revenu, il faut qu'on regarde son train de vie. S'il fait 300 000 de commission, puis il en dépense 100, il y a 200 000 qui va s'imposer pour rien au personnel, il n'a pas besoin. Mais s'il en dépense 300 ou il en dépense 350, parce qu'il y en a que c'est le même, ben il va falloir qu'il sorte tout de la compagnie. Il est bien mieux de ne pas être imposé.
Prenons cet exemple-là, là, super facile du courtier en question qui fait 150 000 ou 200 000 par année. Avant de prendre le conseil de l'ami ou de l'autre courtier, ou peu importe, il va chez vous, vraiment techniquement, tu n'en as pas pour 100 heures à élaborer son dossier puis à voir un petit peu, est-ce que je te suggère ou non de t'incorporer? Après ça, on creusera ton dossier. Mais tu sais, sur quoi ces gens-là cheap, là, dans le sens, ça doit être quelques honoraires chez vous. Puis, tu sais, je veux dire, ça vaut la peine de prendre le temps.
Souvent, les gens, ils cheap sur je vais pas payer, mettons. Tu sais, là, en ce moment, je suis en train de faire une transaction où est-ce que le client dit, fais ce que tu veux, mais faut pas que ça coûte cher. Tu vois, mais c'est parce que je peux rien faire, puis ça va rien coûter aujourd'hui, mais tu vas perdre ta DGC à la vente. Fait que ça va te coûter à 250 d'impôts de plus. Ou je peux tout faire aujourd'hui, ça va coûter, mettons, 15 000. Puis à la fin, tu vas avoir ta DGC, ça va avoir 250 000 de plus dans tes poches. Fait qu'aujourd'hui, ça va te coûter 15 000 de plus, mais tu vas avoir 250 000 de plus dans tes poches en 3 ans ou en 5 ans quand tu vas vendre parce qu'on sait que tu veux vendre. Bien, pour moi.
C'est de l'éducation, beaucoup, ta job. C'est un peu ça, pareil, parce que les gens ont de la misère à voir l'économie ou le financier.
C'est de l'éducation, puis tu sais, on parle de fiducie. Des fois, les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi une fiducie, à quoi ça sert. Puis souvent, les gens vendent, fais-toi une fiducie, puis Puis je parle à des gens, puis ils n'ont pas besoin de fiducie pantoute, pantoute. Une fiducie,
mais tu sais, il y a eu aussi le mythe que c'est important d'avoir une fiducie, puis d'avoir un standing. Ah, ben j'ai une fiducie familiale, etc. Puis trop souvent, les gens se disent, ah, ben moi, j'ai une fiducie. Mais Chris, ils ont une fiducie, puis ils n'ont pas d'argent dedans. Là.
Exact. Ouais, ou ils n'ont pas l'avantage d'avoir une fiducie, tu sais. Le gros avantage, bien, ils n'ont pas l'avantage. Il y a quelques années, il y avait des avantages. Par exemple, les gens pouvaient faire du fractionnement de revenus avec des enfants. Là, certaines formes de fractionnement de revenus avec au niveau de la DGC avec des enfants mineurs qui se font encore aujourd'hui, mais il y avait des fractionnements de revenus très populaires où est-ce que souvent les professionnels, médecins, avocats, dentistes, comptables, etc., qui faisaient ça, où est-ce que les enfants, dès qu'ils atteignaient 18 ans, on leur envoyait des dividendes pour payer leurs études, etc., payer leur première voiture, toutes ces choses-là. Toutes choses que papa maman devrait payer normalement. Bon, là, je parle pas de devrait payer la voiture, là, on s'entend, ça, c'est à l'appréciation de tout le monde, mais payer le linge, payer la nourriture, puis souvent payer une partie des études, les parents vont le faire s'ils ont les moyens de le faire. Fait que là, si tu peux le faire en versant un dividende à ton enfant qui nécessairement va s'imposer beaucoup moins sur le dividende que toi, si oui. Tu te le verses pour après le redonner à ton enfant... Ben, il y avait des planifications qui étaient... Tout était planifié pour ça, puis on attendait juste que les enfants aient 18 ans pour commencer à verser des dividendes. Et là, ben là récemment, les libéraux ont changé ça, puis on ne peut plus verser des dividendes à des enfants en 18 et 25 ans, sauf dans des situations très, 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 très précises, qui sont, somme toute, quasiment les mêmes situations pour lesquelles tu verses un salaire à ton enfant, donc qui travaille dans la business.
Oui, c'est ça. Fait que ça enlève déjà beaucoup d'incitatifs.
Ça enlève les principaux incitatifs, mais il y a encore des incitatifs, comme par exemple justement la multiplication de la DGC, là, le 892 000 dont je parlais tantôt, qui est indexé à chaque année. Donc l'année prochaine, ou au moment où le podcast va passer, ça risque d'être un peu plus élevé. Quel montant, je ne sais pas encore. Mais ça, tu sais, j'ai déjà vu une situation où un grand-papa vendait sa business, puis bon, un grand-papa et grand-maman ont pris leur DGC. Leurs deux enfants ont pris la DGC, puis leurs quatre petits-enfants ont pris la DGC. On s'entend-tu qu'il y a pas mal d'impôts qui se sont vus là-dessus? Si on fait une moyenne d'à peu près 200 à 250 000 par tête là, d'impôts sauvés. Là. Fait que, c'est,
toute la famille est dedans.
On est 8 personnes, c'est 2 millions en impôts qu'on a sauvés. Là.
Ouais.
Juste à cause d'une fiducie qui a coûté peut-être dans cette situation 15, 20, 25 000 à mettre en place.
Ça revient à dire qu'il faut qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y ait une éducation. Il faut qu'il y ait parce que, tu sais, sans tomber trop dans le dé, mais je pense que ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens se disent. J'ai pas ça, tu sais. C'est comme tout le temps le syndrome de j'ai pas ça. Il y en a d'autres qui l'ont. Est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que je dois absolument m'incorporer parce que telle personne s'est incorporée? Puis j'ai entendu que lui avait une fiducie. Vite, faut que je cherche quoi. Ça manque à mon pack-sac. Mais ça va plus loin que ça, là.
Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis l'autre avantage de la fiducie, même si on regarde pas le fiscal, parce que oui, moi, si mon client a une fiducie, souvent, c'est beaucoup plus facile de faire de la planification avec lui parce que la fiducie, c'est comme un conduit. Puis je peux renvoyer les revenus à n'importe quel bénéficiaire. Évidemment, il faut que je fasse attention à qui je l'envoie parce qu'il y a des impacts fiscaux différents. Mais s'il y a des sociétés pour qui sont bénéficiaires, je pourrais peut-être envoyer des dividendes à cette société-là, même si techniquement, elle n'est pas actionnaire de la société qui paye le dividende. Puis ça peut être avantageux de faire ça pour une question de planification. Mais là, est-ce que tu vas conseiller à ton client de mettre une fiducie parce que ça le facilite ta job par la suite? Ben, pas vraiment, à moins que le client, lui, ça facilite vraiment ta job, puis après, lui, il en sauve beaucoup d'argent. Pas parce que ça coûte moins cher faire ma job, mais parce qu'après, il y a beaucoup plus de flexibilité. Fait que là, ça pourrait valoir la peine. Mais l'autre avantage, principalement, si on parle pas de fiscalité des fiducies, c'est la question de protection d'actifs. Parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en construction qui vont cautionner la plupart des jobs qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont des cautions personnelles sur X, Y, Z à cause des contrats. Puis, les cautions, on parle de plusieurs centaines de milliers, voire millions de dollars. Puis, tu sais, là, je parle d'entrepreneurs en construction, mais c'est pas nécessairement juste la construction. Des fois, c'est la maintenance lourde dans des usines, des choses comme ça. Puis, vu que tu donnes tellement de cautions, si jamais la business va mal, ça se peut que toi aussi, ça aille mal puis que tu fasses faillite. Puis là, si tu as d'autres business, bien, tu veux pas, toi, en faisant faillite à cause d'une de tes business, que tes autres business nécessairement soient impactés par ça. Fait que peut-être que ça vaut la peine de mettre une fiducie familiale en place ou une fiducie protection d'actifs, dépendamment de la meilleure fiducie pour toi, pour justement, pas du fiscal pantoute, vraiment la question de la protection d'actifs. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, comme je dis à mes clients, quand ils décident de s'incorporer pour la question de « je veux pas me faire poursuivre », s'incorporer, c'est pas un permis de fourrer les gens, je m'excuse.
Non,
je sais pas si,
c'est important, c'est pas correct.
C'est clair.
Mais t'incorporer, c'est pas un permis de fourrer les gens, mais c'est pas parce que t'as une fiducie non plus que tu peux fourrer les gens. Parce que récemment, il y a un jugement qui a été rendu contre, je pense que c'est un comptable, qui, somme toute, puis je vais vraiment, là, c'est vraiment un très, 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 très gros raccourci que je vais faire, mais somme toute, aurait dit ben moi, ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, tous mes biens sont en fiducie. Fait que même si vous me condamnez à quelque chose, je ne vais rien payer. C'est à peu près ça qu'il aurait dit. Là, je paraphrase, puis je vais vraiment vulgariser fois mille. Le juge n'a pas vraiment
apprécié ça,
là.
Non?
Fait que, tu sais, faire une fiducie pour sortir, pour que ça soit que c'est clair que tu veux te sortir de tes créanciers, ça se peut que tu aies une mauvaise surprise après quand le juge se mette le nez là-dedans.
La phrase, c'est on peut jamais faire quelque chose illégal indirectement. On peut pas faire indirectement ce qu'on n'aurait pas le droit de faire directement. Ça revient à ça, tu sais, ça revient à ce qu'on a dit tantôt.
Exact, mais en même temps, il y a des moyens légaux de le faire. Il y a des moyens légaux de dire, écoute, et là, oui, j'ai cautionné ça. Oui, je suis responsable personnellement. Je vais faire faillite, mais mes biens sont dans une fiducie. Fait que,
c'est l'intention qui compte.
C'est l'intention. Ça. Fait que si tu dis, ben moi, je m'en fous parce que je vais faire ci, ça, ça, puis je le sais que je vais faire faillite, mais je m'en fous parce que tout est en fiducie, ce qui a de la valeur.
Oui, c'est ça, exact.
Mais dans le fond, pour répondre à la question, comme tu dis, pour les nuls un peu, c'est comme si c'est une fiducie, c'est comme une grosse inc, si tu veux. Tu sais, c'est quand tu as des plus gros revenus, des plus gros actifs à protéger. Mettons qu'on essaie de
si
de
je parle d'une fiducie, parce que tu sais, une fiducie, c'est un patrimoine qui est distinct. Fait que ce qui appartient à la fiducie ne m'appartient pas à moi, même si c'est ma fiducie, tu sais.
Parce qu'on n'est pas bénéficiaire directement.
On est bénéficiaire, c'est juste qu'on n'a pas le contrôle. Exact. C'est vraiment un patrimoine distinct. Fait que c'est comme si je te disais, c'est comme si tu te clonais tout de suite, tu mettais ton clone dans le garde-robe, tu fermais les portes, puis tout ce qu'il y avait à lui, tu pouvais l'utiliser, mais ça ne t'appartient pas, tu sais. C'est vraiment, on s'entend, là, tu me dis faire ça une explication pour quelqu'un qui avait 3 ans. Ouais. Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est vraiment, c'est pas à moi, ça m'appartient pas, ça appartient vraiment à la fiducie. Mais c'est sûr que si je vais à la banque, là, je dis, ah, la banque, passe-moi là de l'argent, puis elle dit, OK, parfait, qu'est-ce que t'as? Ben, moi, j'ai tel immeuble, telle affaire, j'ai tel business, j'ai tel ici, ça, puis dans mon bilan, je mets ce qui appartient à la fiducie dans mon bilan. Ben, je m'excuse, mais ça se peut que la banque a dit, là, tu m'avais dit que tu avais ça, puis ça, fait que, en fiducie, je vais aller me servir. T'sais. Puis après, ben, ça va être pas mal plus dur à dire au juge, ah, mais monsieur le juge, non, ça c'est à la fiducie, on n'a pas le droit d'être pigé là-dedans.
Tu peux pas jouer ces deux tableaux.
Tu as dit à la banque, voici tout ce que toi t'avais, puis t'inclus tout ce que la fiducie peut-être, à moins que tu l'aies transféré en fiducie par la suite. Là, faites attention avec ça, les transferts en fiducie. Là. Mais, tu sais, c'est pas, comme je disais, je reviens à ce point, permis de fournir les gens non plus. Là.
Ah, ouais, ben oui, définitivement.
Tu es à l'abri de tout, là.
Non, c'est clair.
Définitivement. Puis, vous désirez avoir plus d'informations sur la fiscalité ou peut-être même en droit ou peut-être mieux structurer vos business, c'est important de rester à l'écoute de la bulle immobilière. On doit aller en pause. Puis, tout de suite après, on va parler du partenariat. Puis ça, là, ça va être vraiment intéressant. Puis très juicy, effectivement. On revient tout de suite après.
Pas pour lui. Thank you.
On est à CJMD 96.9, toujours à l'émission La Bulle immobilière avec mon acolyte Kevin. Mon nom, c'est Jean-François, toujours courtier immobilier pour Nous vendons votre maison. On est avec Jean-Sébastien Monette, avocat fiscaliste pour Fortier d'Amour Goyette. Puis on a parlé d'incorporation, on a parlé du pourquoi, de faire un peu d'explication par rapport à comment ça marche pour les nuls. Parce que, tu sais, on se pose toujours des questions par rapport à ça, c'est-tu pertinent pour nous, c'est-tu pas pertinent pour nous. Mais arrive une situation ultra importante quand on vient faire de l'investissement immobilier, des partenariats d'affaires. Puis des partenariats ou des conventions d'actionnariat ou de partenariat sont ultra importantes parce que ça vient définir de quelle façon vous allez travailler ensemble, mais de quelle façon vous allez mettre fin à vos ententes aussi. Puis c'est un peu comme un contrat de mariage. On est mieux de le faire quand que ça va bien versus que quand que ça commence à chirer. Là.
Non, mais 100%. Au début de la journée, tu parlais justement, là, on fait une convention d'actionnaire, mais on prend un modèle sur Internet. Puis des fois, je vois ça, là, un modèle tiré sur un site...
De Belgique.
Exactement ce que je vous avais dit tantôt. .be. Puis là, il se demande pourquoi tu dis que c'est tout croche, il faut que ça refasse. Genre, mais j'ai pris ça, c'est un bureau d'avocat qui a fait ça mais en Belgique, oui. Puis, tu sais, mais ça, c'est quand ils ont une convention d'actionnaire. La plupart du temps, les gens n'en ont juste pas. Puis, pour eux, c'est pas important. Puis là, après, ben vient le temps où ce que là, ils ont peut-être des frictions avec le partenaire. Fait que là, ils sont comme, OK, c'est bon, on va mettre une convention d'actionnaire en place. Là, ben là, ils s'entendent même pas sur le terme de la convention d'actionnaire. Puis là, whoop, là, et là, le partenariat prend le bord parce que justement, ils sont pas capables de s'entendre sur la convention d'actionnaire. Puis là, ben là, t'as pas de convention d'actionnaire pour régir la fin du partenariat.
C'est une boucle, c'est un cercle vicieux.
Ben, c'est sûr que ça va coûter plus cher finir ça que si tu avais une convention d'actionnaire, c'est garanti. C'est pas parce que tu as une convention d'actionnaire nécessairement que ça va bien aller aussi la fin de partenariat. C'est comme un mariage. Là. Tu peux avoir le meilleur contrat de mariage si les parties sont pas de se sentir, puis c'est une question de je veux faire chier l'autre le plus possible, ben
ça va être pénible pour tout le monde. Ça peut arriver, là, effectivement.
Fait que, ben oui, la convention d'actionnaire, la convention d'association si on est en SNC ou la convention d'indivision si on investit directement dans, par exemple, un immeuble au personnel, pour moi, c'est un must. Là. C'est vraiment là, une des premières affaires à faire. Là.
Puis dans une convention d'actionnaires, là, c'est quoi le starter pack? Là? C'est quoi les points importants? Là? Sans dire les 175 pages qu'on peut avoir, parce que des conventions d'actionnaires à 10 pages, il y en a à 150 pages.
Ouais.
Puis, mais généralement, tu as ton préambule, tu as différentes clauses qui vont faire partie de la convention.
Ouais.
C'est quoi les points les plus importants qu'on doit avoir?
Bien, pour moi, les plus importants, bien, définir c'est quoi le but de la compagnie, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette société-là, définir le rôle et les obligations de chaque personne. Là, après, bon, est-ce qu'on veut de la non-concurrence? Si on est dans un domaine, par exemple, mettons un courtier puis on a une agence, mettons, bien oui, on ne voudra pas que notre partenaire soit aussi propriétaire d'une autre agence compétitrice. Donc, on veut qu'il soit 100% all-in avec nous autres. Fait que la non-sollicitation, non-concurrence, etc., peut être avantageux. Versus de l'autre côté, si c'est de l'immobilier, puis un immeuble, c'est un immeuble, puis ça ne te dérange pas vraiment si ton partner en a un autre au bord de la rue avec quelqu'un d'autre, pour autant qu'ils ne viennent pas solliciter tes locataires déménagés, bien, c'est pas si grave que ça, tu sais. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Les clauses de retrait, tu sais, s'il y en a un qui commence à piger dans le compte de la compagnie, s'il y en a un qui se retrouve dans une situation fâcheuse, qui se retrouve en prison, qui toutes ces choses-là.
En faillite,
ben oui, tu veux avoir des clauses de retrait pour prévoir puis venir voir là, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là. Puis là, il faut faire attention avec les clauses de retrait parce qu'il peut avoir des impacts fiscaux. Là, la fiscalité, c'est vraiment partout. Il y a le fameux piggy black ou les clauses d'entraînement en français où est-ce que si, mettons, on est plusieurs actionnaires puis il y en a, mettons, on est quatre puis il y en a trois sur quatre qui vendent à un même actionnaire puis là, ben moi, je suis le quatrième puis ça me tente pas vraiment de faire affaire avec ce gars-là, mais il m'a pas fait d'offre pour mes actions parce que lui, ben, il s'est dit, je vais avoir trois quarts, fait que je vais le tasser dans le coin puis c'est moi qui vais décider. Ben, ça me tente pas de rester avec lui, fait que je vais vouloir qu'il me rachète au même prix, aux mêmes conditions que racheter les autres. Alternativement, l'autre, s'il achète 3 sur 4, puis moi, je veux rien savoir d'y vendre, puis je veux pas en tout y vendre, ben peut-être qu'il va vouloir être capable de me forcer à le vendre aux mêmes conditions qu'il a acheté les autres. Fait que ça, c'est des clauses d'entraînement. Fait qu'on appelle ça en bon français le piggyback, puis le piggyback renversé.
Et ça, c'est quand même super important aussi. Puis, il faut sûrement aussi prévoir la manque de liquidité d'un des actionnaires. Là, parce que, par exemple, arrive une problématique sur un immeuble, il faut poter in dans la société, puis il y en a un qui dit « Ah, ben moi, j'ai pas l'argent, ben on fait quoi avec ça? »
Exact, mais tu vas prévoir des clauses de mise de fonds, des clauses de est-ce que la mise de fonds va amener une dilution de la personne qui a pas investi? Est-ce que ça va être juste une mise de fonds sous la forme d'action privilégiée ou de part privilégiée dans une société en nom collectif, puis qui va donner un rendement plus intéressant? Est-ce que c'est comme si tu faisais un prêt à l'autre actionnaire et c'est lui qui, de sa poche, va te payer les intérêts?
C'est quoi le délai que tu acceptes?
Exact. Il y a plein de solutions possibles, mais oui, il faut qu'on en parle de ça.
Bien, dans l'immobilier, je pense surtout l'optimisation, c'est souvent chose qui va arriver, c'est-à-dire qu'il faut repoter parce que nos scénarios initiaux ne sont pas...
J'en fais de l'optimisation, mais moi, dans mes structures, dans mes forecasts, on y va tout le temps worst-case scénario puis on met beaucoup plus d'argent à la base que ce qu'on a besoin. Puis, tu sais, on parle de partenariat. Souvent, il y a des partenariats où tu as des passifs, des actifs. Mais moi, être l'actif, là, ça me tentera pas après d'aller cogner à la porte de mes passifs et dire, ouais, tu sais, je vous avais dit que ça coûterait tant, mais ça n'a pas vraiment coûté tant. Il faut mettre tant de plus.
Non, c'est
pas le fun. T'es peut-être mieux de bien faire tes affaires au début, n'avoir trop, puis après un an ou deux, ressortir l'excédent de cash, puis tout le monde va être mieux content de même. Que de te faire vendre du faux rêve, puis après, ben là, finalement, être obligé de repoter, puis de repoter, puis de repoter, puis là, après, ben là, ça va être des litiges, puis ça va être, ben là, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, tu m'as fait des promesses de rendement.
C'est beaucoup plus dur au niveau gestion des attentes d'en remettre quand il en manque que d'en avoir remis.
Clairement, l'affaire la plus importante, c'est la gestion des attentes. Puis quand je parle gestion des attentes, c'est pas de mettre de l'eau dans ton vin, là. Parce que, tu sais, si ton château Pétrus goûte le Saint-Laurent flappé, là, c'est pas le fun. C'est pas de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est de parler avec tes partenaires, qui fait quoi, c'est quoi. C'est quoi les ententes? C'est vers où on s'en va puis tout le monde soit sur la même page.
Tu dis, il faut le faire jour 1. Parce que
faut ce qui arrive souvent, c'est qu'on se dit,
achetons un immeuble, on va voir si on travaille bien ensemble, peut-être un deuxième, on verra pour un troisième, quatrième. Quand ça fera 2 ans, on pensera à une convention. Puis là, hop, on tombe dans, comme on disait, c'est important, mais c'est non urgent.
Exact. Ça devrait être avant même d'acheter l'immeuble, on devrait savoir où est-ce qu'on s'en va. On a une convention d'actionnaire, quitte à l'amender quand on a racheté l'immeuble parce que tout le monde est d'accord pour la changer. Parce que c'est pas parce qu'on fait une convention d'actionnaire aujourd'hui qu'on peut pas la modifier dans le futur. Si tout le monde est d'accord, on peut l'amender quand on veut. Mais c'est vraiment important d'en faire une, selon moi. Les autres clauses, les clauses de décès, qu'est-ce qui arrive en cas de décès? Et c'est-tu la succession qui ramasse, puis on est pogné avec eux autres? Ou non, mettons, si on fait affaire avec un couple, ben, monsieur décède, c'est madame qui reprend l'autre portion, mais déjà actionnaire, anyway, c'est pas grave.
Ouais. Puis arrive aussi les assurances
oui,
sur nos partenaires. Là. Oui. Dans le fond, pourquoi pas que chacun d'entre nous, on est trois actionnaires, pourquoi que j'aurais pas une assurance sur chacune de vos vies? Puis vous, pareil, là?
Ah ben moi, je suis 100% d'accord, quitte à ce que ça soit la société, en fait, qui prend l'assurance. Puis, tu sais, on parle d'immobilier, là, mais l'immobilier, là, il y a beaucoup, beaucoup de prises de valeur d'immeubles dans le temps. Puis là, ben s'il y a un partenaire qui décède, puis tu es obligé de vendre des immeubles pour racheter sa part.
Refinancer avec des pénalités.
Ou refinancer avec des pénalités. Puis même là, le refinancement, des fois, c'est pas assez à cause du 25% ou du 35% qui veulent qui pas te décaisser, équité, dépendamment de ta banque puis de ton portrait. Bien, t'es peut-être obligé de vendre un immeuble, puis là, ben là, si t'as trop de récupération d'amortissement, trop ci, trop ça, peut-être un deuxième, un troisième, ben, peut-être l'assurance-vie peut-être arrêter régler ton trouble.
Puis tu sais, l'assurance-vie va aussi peut-être te permettre d'acheter les actions justement de la personne décédée, puis de garder le contrôle sans nécessairement avoir à gérer ça. Là.
Exact. Puis l'autre chose aussi que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que l'assurance-vie, ça va dans un compte spécial, qui est un compte fictif qui s'appelle le compte de CDC, le compte de dividendes en capital. Et c'est comme la portion non imposable du gain en capital s'en va là aussi. Bon, j'ai fait un petit raccourci là, en disant que toute l'assurance va là. C'est pas toute l'assurance qui va là, mais une très bonne partie de l'assurance qui va là. En cas de décès, bien, ce compte-là, quand on fait un dividende du CDC, là, c'est un dividende qui est non imposable pour les actionnaires qui le reçoivent.
Donc, il y a
un autre incitatif, puis on peut racheter les actions de l'actionnaire du défunt sans nécessairement avoir d'impact fiscal, ou on peut racheter d'autres actions parce que, tu sais, si, mettons, c'est la société qui est preneuse de l'assurance, puis c'est elle la bénéficiaire. Puis mettons que, parce que le but de l'assurance aussi, c'est de s'assurer pour juste ce qu'on a besoin, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir besoin exactement, parce qu'à chaque fois qu'on achète un nouvel immeuble, notre besoin d'assurance vient d'augmenter, puis souvent, on va essayer d'en prendre un peu plus aujourd'hui, ou bien peut-être qu'on va être dans une situation où on vient juste de refinancer, puis on n'a pas besoin de tout cet argent-là, puis peu importe, il reste de l'argent, bien, ça se peut qu'on verse le CDC, oui, au défunt, ou on verse une partie du CDC aux actionnaires qui restent aussi, parce qu'on peut faire ça, puis ça peut être avantageux aussi. Là. Ouais, il y a plein de façons de travailler avec ça, mais encore faut-il qu'on ait prévu de prendre l'assurance au début, puis plus vite qu'on la prend, moins ça coûte cher, règle générale.
Ben oui, ça, c'est le conseil de pro aussi. Là. Plus tu es jeune, moins ça coûte cher, puis mieux que c'est aussi. Là. Puis en même temps, c'est à cause que plus tu le prends jeune, plus longtemps que tu vas la conserver, plus longtemps que tu vas avoir un historique avec ton assureur, puis plus longtemps que tu as un historique avec ton assureur que tu réclames pas. Ben, ils maintiennent des taux plus bas aussi. Là.
Puis l'autre réalité aussi, c'est que ça se peut très bien que tu deviennes non assurable dans le temps. Si tu as un cancer, si tu as ci, si tu as ça, ben, tu peux ne plus être assurable. Mais si tu as encore ton assurance, mettons, tu as pris une T100 quand tu avais 22 ans, ben, à 85 ans, techniquement, elle est encore active. Là. Fait que essaie de te faire réassurer à 85 ans après deux cancers, c'est impossible. Puis il y a des gens à 35 ans qui ne sont pas assurables, mais là, si tu l'as pris avant, tu étais assurable au moment où tu l'as pris, tu as pris un bon produit qui ont testé ton assurabilité au moment où tu l'as pris. Mais tu vas rester assurable tant que tu vas payer tes primes.
Mais c'est comme la convention elle-même. Il faut le faire quand ça va bien. Il faut le faire quand c'est pas le temps. Puis tu sais, comme tu dis, le starter pack, c'est peut-être justement de dire quand on commence un partenariat, on met-tu, 2, 3, 4 000 en honoraires pour partir justement avec une bonne...
Ça dépend des dossiers, mais selon moi, une bonne convention, pour prendre le temps aussi de la bien la faire puis de s'asseoir aussi. Parce que moi, ce que je vends, c'est pas un papier, c'est mon temps puis mon expertise. Mm-hmm. Fait que si la convention, ça a pris, mettons, 30 minutes à faire puis c'est 700$, mettons, là, ben on s'entend qu'elle risque d'être pas mal moins bonne que si ça m'a pris 5 heures, puis c'est 2500, mettons. Oui,
puis dans le fond, moi, les conventions que j'ai faites, c'est ça, c'est que tu arrives, puis l'avocat te pose des questions.
Exact.
Parce que c'est pas, il t'a dit, voici ce que ça te prenait, j'avais la recette, c'était dans ma filière, tu as payé le gros prix, voici le papier, c'est pas ça. C'est un échange, puis c'est un back and forth.
Exact, puis souvent, tu vas essayer d'aller chercher un avocat qui est spécialisé dans le domaine que tu es, parce qu'il va en avoir fait d'autres avant, puis des fois, c'est lui qui va te dire, hey, mais à cause de telle réalité, il y a ça que tu n'y avais pas pensé, puis tu vas dire, pour vrai, je ne le savais pas. Parce qu'il y en a fait d'autres. Là.
On revient toujours au parallèle que c'est un 2-3 000 d'honoraires pour sauver peut-être 100, 200, 400, 500 000. C'est ça qui arrive. C'est des gros chiffres. Fait que
c'est pas comme une convention de copropriété, là, une déclaration de copropriété où il y a déjà le template puis tu fais juste marquer les numéros de cadastre et les parties privatives parce que ça existe.
Malheureusement, il y en a. Il y en a des conventions d'actionnaires puis qui signent en haut, signent en bas. C'est 750$ puis that's it. Mais tu sais, habituellement, là, une nouvelle compagnie, dans le marché, là, où est-ce que je suis, on parle à peu près 1 500$ pour une nouvelle compagnie, là, plus taxes, incluant les frais. Puis bon, des fois, si c'est un autre professionnel, il y a des démarches additionnelles, bien, il y a un coût supplémentaire à ça. Mais quand est-ce que tu vas avoir une compagnie qui va te coûter plus cher que ta convention d'actionnaire, pour moi, c'est un, ça fait pas de sens.
Non, ben ça, ben ça fait pas de sens. Définitivement que ça fait pas de sens.
Il y a plus de jobs là-dedans.
Il y a beaucoup plus de jobs. Puis, tu sais, je parlais de 5 heures. Tantôt, je parlais de 5 heures, mais c'est beaucoup plus que 5 heures de travail qui est dans une convention d'actionnaire. Puis, même si on. Souvent, avec les partenariats pour les investisseurs immobiliers, on va avoir un modèle qu'on va reprendre. Parce qu'ils ont déjà un modèle qui est éprouvé, qu'on a monté pour eux.
Il y a déjà eu des questions qui ont été répondues en général, effectivement.
Moi, je mets des partenaires en place pour les promoteurs immobiliers ou les gens qui font de l'optimisation avec des partenaires passifs, qui souvent, c'est les mêmes partenaires qui reviennent tout le temps. Fait qu'ils ont déjà tout négocié la convention d'actionnaire, ils la connaissent par cœur. On fait juste l'adapter aux nouveaux partenariats, aux nouvelles immeubles, aux nouvelles affaires. C'est du rinse and repeat. C'est juste que pour des raisons X, Y, Z, on l'a fait dans une nouvelle compagnie. Ou dans une nouvelle SENC, etc. T'sais.
Puis moi, comment je vois ça aussi, c'est que c'est comme si tu étais un peu un médiateur, puis tu recevais les partenaires, mais quand ça va bien, dans le sens que tu poses des questions, quand il va arriver ça, comment vous voulez gérer ça, qui pote, sinon qui doit, y a-tu des intérêts, puis là, tu te regardes, ça va bien.
Je veux pas être plate, là, mais souvent, c'est là que tu vas savoir exactement avec qui tu vas avoir affaire, là, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, Palais, t'as un petit peu, on parle d'argent, non, mais moi, je suis pas à l'aise avec ça, etc. Puis c'est là que tu vas apprendre beaucoup puis, avec qui tu vas.
Des fois, ça accroche avant même d'acheter l'immeuble, parce que ça accroche à la convention d'actionnaire, puis là, tu te rends compte que la personne est complètement déconnectée ou vous n'avez pas la même vision, puis là, c'est là que c'est le temps de dire, ben, regarde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.